France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. Un incendie a ravagé cette nuit les locaux de France Bleu Isère à Grenoble. Il n'y a pas eu de blessés. D'après les premiers éléments recueillis sur place, cet incendie serait d'origine criminelle. Il y a eu 2 départs de feu constatés. La station qui fait partie du groupe Radio France ne pourra pas assurer aujourd'hui ses programmes habituels. Emmanuel Macron est en Égypte depuis hier, visite officielle tournée en priorité vers le partenariat stratégique entre les deux pays. Il sera également question d'économie et de droits de l'homme. Au programme aujourd'hui de la rencontre entre Abdel Fattah al-Sissi et le président français, une discussion ouverte sur le sujet, promet l'Élysée, dans l'intérêt, a expliqué hier soir Emmanuel Macron au Caire, du régime et de la stabilité du pays. Le fossé se creuse au Venezuela entre les fidèles de Nicolas Maduro et ceux de Juan Guaido, alors que le président en exercice a rejeté hier l'appel de plusieurs pays européens dont la France a organisé de nouvelles élections. Le jeune président de l'Assemblée nationale a appelé lui à manifester mercredi et samedi pour tenter de faire basculer l'armée dont le soutien semble rester acquis pour l'instant à Nicolas Maduro. En France, les foulards rouges ont tenté hier de reprendre du terrain aux gilets jaunes. Ils étaient plusieurs milliers à Paris dans une manifestation entre Nation et Bastille. Ils défilaient pour exprimer leur soutien aux institutions. De leur côté, les gilets jaunes organisent les élections européennes. Hier soir à Orléans, Jacqueline Mourot a créé son parti Les Émergents. Sur le plan sécuritaire, cette fois, une nouvelle polémique risque bien d'affaiblir les positions du gouvernement et de Christophe Castaner à l'intérieur. Elle concerne l'utilisation des lanceurs de balles de défense, les LBD, après qu'un gilet jaune, Jérôme Rodriguez, a été touché et blessé à l'œil samedi lors de l'acte 11 des gilets jaunes. Pour lui et pour ses défenseurs, c'est bien un flashball qui est en cause de sa blessure. Impossible à dire pour l'instant, rétorque le secrétaire d'État Laurent Nunez. Il est 6h02 sur France Culture. Les petits matins, voici maintenant Toufik Hakem, le réveil culturel.
Lundi 28 janvier à 20h, France Culture et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Les scènes imaginaires, carte blanche au metteur en scène Christophe Honoré. Texte de Marcel Proust, Salinger, François Truffaut, Nathalie Sarraute, lu par une troupe d'acteurs réunis par Christophe Honoré, avec la participation de Geneviève Brisac et Dominique Bruguière. Entretien de Christophe Honoré par Arnaud Laporte, réalisation Christophe Hoquet. Réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors, c'est l'histoire d'un canapé-lit très moche, recouvert d'une espèce de velours olive orné de fleurettes, avec accoudoirs de bois clair et les fauteuils assortis. Quand sa propriétaire meurt de sa belle mort à 93 ans, sa fille unique charge ses deux fils et sa belle-fille de transporter le canapé-lit de Créteil, verdoyante banlieue parisienne où vivait la défunte, jusqu'à la famille familiale du Cantal, perdue dans le village de Lusseau. Le voyage du canapé-lit de Pierre Jourde, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, est un drôle de roadbook, drôle et féroce, récit picaresque et folle épopée.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour tout le monde, bonjour Pierre Jourde, ravi de vous retrouver.
Bonjour.
Vous êtes tout à la fois l'auteur et un des protagonistes de votre voyage du canapé-lit.
Hélas.
Voilà. D'après une histoire vraie, pourrait-on dire, toutes les histoires qui sont racontées dans ce livre, sans exception, se sont réellement produites dans la vie, y compris donc le transport en camionnette d'un canapé-lit un week-end de Pâques. Ce qui fait de ce récit un roman, ce sont les dialogues, les conversations qui sont le fruit de votre imagination, la chronologie des faits que vous ne respectez pas forcément, c'est ce que vous précisez en préambule du voyage du canapé-lit. Et cet avertissement, en fait, nous aide juste à accepter très vite l'idée que le narrateur, l'un des deux frères de cette épopée, s'appelle Pierre Jourde. Et quand c'est à lui de prendre le volant, il a du mal à narrer. Ouais, et c'est tout à fait logique. On peut pas parler et conduire en même temps. Alors, sinon, tout le reste n'est que roman. Et c'est un vrai plaisir que de lire ce livre, quand comme lorsqu'on lit un vrai roman, avec comme protagoniste Pierre Jourde, son frère Bernard, et Martine, la femme de Bernard, la belle-sœur donc, et tout ce qu'ils vont se dire, les discussions littéraires, les digressions philosophiques, les souvenirs sans regret qui remontent en surface, tout ce qu'ils vont se balancer aussi comme vérité, autre méchanceté, toutes les névroses familiales qui vont ressortir durant ce trajet de Paris en Auvergne, nous captivent du début jusqu'à la 260e et dernière page de ce roman. Donc c'est un roman, on va en parler, mais d'abord, comment voit Pierre Jourde l'écrivain ?
Ça va bien, et ça va d'autant mieux que, je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de terminer une pléiade consacrée à Joris Karl Huysmans, qui m'a demandé beaucoup de travail, et là je commence à souffler un peu, et entreprendre un roman, alors vraiment complètement romanesque et complètement imaginaire.
C'est-à-dire sans vous dedans ?
Sans moi dedans, oui, c'est ça. Aucun morceau de moi dedans. Et ça va me reposer de l'autobiographie.
Alors justement, puisque vous pratiquez l'autobiographie depuis longtemps, est-ce que vous construisez toujours de la même manière votre double littéraire pour restituer tel des chapitres, plus ou moins ordonnés les épisodes de votre vie ?
Non, pas du tout.
Ça a évolué avec le temps ?
C'est juste que l'objet étant différent, la tranche chronologique étant différente, ça prend pas du tout la même forme. Dans le livre précédent, je parlais de la fin de mon fils. J'étais pas vraiment le personnage principal. J'étais très légèrement décalé, même si évidemment on est quand même aux premières loges. Et c'est sur une tranche de temps très limitée, hein, un an de sa maladie. Dans le texte précédent, je racontais l'épisode de tentative de lynchage dans le Cantal, qui a duré, alors là pour le coup, 3 minutes, mais enfin avec tout ce qui est autour. Et là,
et qui vous poursuit toujours d'ailleurs jusqu'à ce dernier livre.
Voilà, il en est question également. Là, en plus, il y avait un dispositif énonciatif qui fait que je disais tu, parce que je me parlais un peu à moi-même, comment dire, mon père n'avait jamais eu la parole. N'avait jamais su parler. Et moi-même, j'avais cette même difficulté. Et se dire « tu », c'était un peu s'inciter à sortir de ce... C'était un peu se pousser pour sortir de cette espèce de repli qu'implique la difficulté de parole, qui a été mon problème aussi pendant un certain temps. Donc là encore, c'était pas le même dispositif. Et dans Pays perdu, je suis quasiment pas un personnage. C'est-à-dire, c'est du vécu, mais ce sont plutôt les autres qui sont les personnages. Donc, vous voyez, à chaque fois, le dispositif est complètement différent. Là, je ne suis qu'un convoyeur. Enfin, je ne suis qu'un convoyeur, j'exagère. Le personnage principal est un canapé qui me fait déclencher des histoires, en effet, qui me sont arrivées avec, au choix, un bidon de canoë, une paire de boules quies qui conduit à une tentative de meurtre. Je vais pas spoiler toute l'histoire, mais qui finit par le monde des livres. différents objets maléfiques que j'ai traversés dans mon parcours.
Tout est vrai sauf les dialogues, dites-vous en préambule du voyage du canapé lit Pierre Jourde. Les dialogues sont le fruit de votre imagination ou ils sont réécrits
Les événements sont vrais. Mais on se laissait jamais raconter pendant ce parcours de 6 heures ou 7 heures en camionnette. La chronologie est quelque chose d'embêtant parce que la chronologie est parfois contradictoire avec la tension narrative. Elle peut donner quelque chose de pas forcément intéressant. Et il m'arrive, je me suis trouvé dans la situation où j'évoquais un événement, par exemple l'histoire du Cantal dont on a parlé là.
Et votre frère qui vous rappelle que non, vous vous trompez, c'est pas encore arrivé.
N'est pas encore arrivé.
C'est drôle d'ailleurs.
Oui, mais je me suis dit, mais après tout, pourquoi on s'embête ? On est dans un roman, donc le romancier est libre, il a le droit de quitter l'illusion réaliste, on s'en fiche de l'illusion réaliste, et de dire, bah, c'est pas encore arrivé, mais c'est pas grave. On le sait, moi je le sais en tant que narrateur, alors mon personnage n'a qu'à le savoir. C'est pour ça que, à la fois, tous les faits sont vrais. C'est pas du tout romanesque, mais c'est complètement romanesque de ce point de vue-là. C'est-à-dire que pour moi, le romanesque, c'est précisément la liberté chronologique. C'est l'essence du romanesque.
Alors c'est un voyage en France, c'est aussi une manière de faire votre propre analyse de votre vie dans ce pays-là, mais tout commence par la mort de votre grand-mère. Une grand-mère qui était radine, d'ailleurs vous le dites, hein, la méchanceté, la duplicité, l'avarice incarnée. Vous le dites, mais toute la famille était à peu près d'accord.
Oui, alors bon, on peut peut-être un peu résumer l'histoire qui parle d'une névrose familiale. Ça tombe bien parce que ça tombe sur un canapé qui est quand même un objet freudien. Ouais. Donc c'est évidemment parfaitement raccord. C'est vrai que dans mes ancêtres, il y a beaucoup de gens qui étaient, qui se sont faits, qui ont travaillé comme des fous et pour qui du coup l'argent qu'on a gagné était quelque chose de sacré, qui passait avant tout.
Et avec eux, c'était les objets. L'argent, ça veut dire voilà, ça. Il fallait meubler la maison.
Voilà. Alors ma grand-mère était bouchère sur les marchés. Elle avait une âpreté certaine et tout le monde disait qu'elle était méchante dans la famille. C'était la méchante femme. Bon, les autres étaient assez gratinés aussi, mais elle, c'était la méchante. J'ai été élevé comme ça, avec cette image-là. Et c'est vrai qu'elle était d'une radinerie invraisemblable.
Même si vous précisez que si elle était radine, vous étiez bien égoïste aussi.
Ah bon, je dis ça.
Ouais, vous avez
zut
dit ça.
Alors, j'aurais peut-être pas dû. Non, mais on savait, pauvre grand-mère, quand je pense que je suis en train de parler d'elle à la radio en ces termes, elle serait furieuse. On savait en allant chez elle pour Noël que il y aurait pas grand-chose, quoi. Où je raconte que c'était parfois des petits bateaux en plastique qu'on trouve dans les cafés de paquets, les paquets de café Mocarex.
Et qu'elle collectionnait.
Dans
un bocal.
Et qu'elle nous donnait.
Incroyable.
Et donc, cette femme et son mari boucher étaient tellement accaparés par leur boucherie, par leur marché, qu'ils s'occupaient pas de ma mère, qui du coup est allée chercher de l'affection ailleurs et l'a trouvée. Et ma grand-mère en a développé une jalousie féroce qu'elle a fait payer cash à ma mère, ce que je raconte dans le livre. Et du coup, quand elle est morte, c'était très curieux parce que récupérer ce canapé, comme bien vous pensez, lui faire faire et faire 1000 km dans une voiture de location, ça coûte beaucoup plus cher qu'un canapé neuf. Mmh. Et celui-là était vieux et moche. Mais c'était visiblement un acte de l'inconscient. Il s'agissait de faire comme si ma mère était vraiment la fille de sa mère et en héritait quelque chose d'elle qu'elle allait garder pieusement. C'était jouer le théâtre de l'amour filial.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors, en vous entendant, on a l'impression que ce dernier roman, votre dernier livre, Pierre Jour,
est très sérieux.
Le voyage du canapé lit, se concentre sur les névroses familiales. Elles sont présentes, mais pas du tout, parce que il y a quand même cette idée de voyage. Et ce voyage-là, à l'intérieur de la France, vous fait rappeler tous ces voyages que vous avez accomplis quand vous étiez jeune. Et alors là, c'est les virées 68 tardes ou baba, je sais pas comment on dit. Si vous dites post-bitnik, puisque vous êtes allé en road trip. Ouais, c'est ce que vous avez écrit. En Inde, au Tibet. Mais pas seulement ces voyages-là.
Le voyage en Auvergne, c'était un voyage rituel qu'on faisait.
Bah oui, puisque vous reprenez la route de la même des vacances, route,
les mêmes étapes, etc. Et pour dans notre famille, c'était the voyage en quelque sorte, celui qui était d'une certaine manière rassurant, qui nous ramenait à nos racines, à la ferme, etc. Et c'est vrai que parallèlement, je suis devenu très vite un passionné de voyage un peu aventureux, on peut le dire.
Et la montagne, la mer,
oui, c'est ça.
Le lointain, ça. Surtout le lointain.
et ma pauvre mère était terrifiée à l'idée de ce qui se passait. Et c'est vrai qu'on l'a, de ce point de vue-là, on l'a pas beaucoup épargnée. En même temps, ce voyage en Auvergne, c'était un petit peu la rédemption de tous les autres voyages, celui qui presque le voyage essentiel qui nous ramenait là où on devait être d'une certaine manière pour eux, pas pour moi, dans leurs yeux. Alors il y a eu le Guatemala, en effet, par exemple. Juste après, il y avait encore des milices à l'époque dans la forêt parce qu'on la guerre civile venait de se terminer. Et je raconte un peu ce qui nous est arrivé à cette occasion où en lisant Tintin et les Picaros, quand les Dupont et Dupont se font mettre le dos au mur et vont se faire fusiller, j'ai vu le moment où on allait vivre ça. C'était ce qui n'était pas absolument rassurant. Je raconte cet épisode à partir d'un objet maléfique qui est la sacoche où mon frère dissimulait son kilo de shit et assez d'argent pour tenir un an au Guatemala.
Parce que c'est ça votre idée, hein, votre idée de dire puisqu'on est encombré de cet objet, ce canapé lit qu'il va falloir transporter. Vous vous souvenez que la malédiction des objets a commencé d'ailleurs chez votre grand-mère et ça devient un peu le jeu de ce livre d'un voyage à l'autre, d'un objet à l'autre.
Voilà. Alors le système des objets, pour parodier Baudrillard, c'est une manière. Je conçois ça comme une. Alors je fais semblant de croire que les objets sont maléfiques. Ce que je croyais un peu quand j'étais gamin. Je croyais qu'ils m'en voulaient à moi personnellement. Je croyais qu'ils faisaient des trucs quand j'avais le dos tourné, comme beaucoup de gens. Au fond, quand on sort de la chambre, que fait l'armoire?
Bon, ceci dit, l'armoire de votre grand-mère, excusez-moi Pierre Jour, des tableaux de votre grand-mère, on peut comprendre qu'on ait ce sentiment, quoi.
Exactement, exactement. Il y avait comme ça un côté un peu inquiétant, un peu paranoïaque. Ensuite, je prends ces objets comme des espèces de témoins, de symboles de notre rapport à la réalité. Ils sont souvent l'occasion d'expériences que j'ai rêvées, par exemple l'expérience de la descente en canoë en Amérique, que j'ai rêvé, que j'ai voulu, que j'ai imaginé et que j'ai raté. En l'occurrence, à cause d'un objet, à chaque fois. C'est comme si le réel venait se venger à travers un de ces objets, du fait que, pour l'aborder, on ait d'abord eu besoin d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne l'ait pas abordé purement. Qu'on l'ait abordé toujours en prévoyant quelque chose. Ah, le réel va avoir lieu un jour, telle est notre vie. Quand il a lieu, ça s'appelle la mort. Tiens, on est grave tout à coup, on est moqueur. Mais c'est ça le système, en fait.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7.
J'ai
J'ai pris tardivement conscience du fait que c'est la Nationale 7 qui nous menait en Auvergne pour la plus grande partie du parcours. Quand je l'ai compris, j'étais déjà un adulte et j'ai dû le vérifier sur les cartes pour y croire. Je ne voyais pas du tout le rapport entre la route que nous connaissions et celle que chantait Charles Trenet. Les vacances au soleil, la mer, le ciel, l'été, les oliviers, l'amour joyeux. La route d'Auvergne, de la sortie de la forêt de Fontainebleau jusqu'à Varennes-sur-Allier, c'était en gros de sinistres bourgades, noircies par les pots d'échappement, ébranlées par le passage de poids lourds, et où on ne voyait jamais personne, comme s'il s'agissait de villages Potemkin, de décors destinés à donner l'illusion d'une présence. C'est dans le voyage du canapé lit, Pierre Jourde.
Ça va faire l'effet Niort de Michel Houellebecq, je suppose.
Bah oui, c'est ça. Mais vous êtes un peu moins déprimé que Michel Houellebecq. D'ailleurs, vous êtes très joyeux dans ce roman.
Oui, c'est quand même un roman assez gai. Mais mon souvenir d'enfance, de la traversée de la France par la Nationale 7, alors, après, à Varennes-sur-Allier, elle oblique nettement vers le sud et la Provence. On l'a quittée là pour aller vers l'Auvergne. C'est la traversée d'une France grise, complètement grisâtre, avec des bourgs aux volets fermés sur la route.
Et personne.
Il n'y a personne. Ouais. Mais Vialat écrivait déjà « Je suis allé en Auvergne avec Jean Dubuffet, nous n'avons croisé aucun être humain ». Tu vois, c'est pas d'hier.
Alors, ce qui vous rapproche d'ailleurs de Michel Houellebecq, c'est que vous nous rappelez, je sais pas, d'ailleurs vous dites très bien que avec ce trajet en camionnette, vous dressez-vous aussi à votre manière, Pierre Jourde, la carte et le territoire, mais à votre façon, il y apprend plein de choses sur d'illustres inconnus ou devenus inconnus que le narrateur connaît, et vous rappelez que chaque village de France a sa célébrité locale ou nationale.
Oui, ça c'est une spécialité connue. Mais alors, je fais usage de Guy Coquille, par exemple, un homme du XVIe siècle qui est le premier grand théoricien de l'absolutisme. Qui se souvient de Guy Coquille? Pas grand
de
monde.
De Hecperse.
Or, ça tombe bien, je l'ai même pas fait exprès, puisque traversant Nevers, avec Guy Coquille, il est question de mes couilles. Donc ça tombait bien, ça me permettait de jouer en même temps phonétiquement sur le cul absent ou présent. Hecperse, il est question donc de l'abbé de Lille, qui était quand même considéré comme un immense poète, au moins aussi grand que Voltaire à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Et donc quelques vers de l'abbé de Lille ne sont pas inutiles pour se souvenir de ce grand homme.
Avec une envie de l'écrivain que vous êtes, Pierre Jourde, de réhabiliter certains poètes, écrivains oubliés.
Je ne sais pas s'il faut les réhabiliter. Mais ça fait surgir une toute autre conception de la poésie, celle de Banville, par exemple, sur Moulin, qu'on a, je crois, complètement oublié. Et puis ça permet aussi de prendre la mesure de ce qu'est la gloire. Qui lit encore l'abbé de Lille, qui a eu une telle gloire?
Et vous parlez même de vous-même en tant qu'écrivain édité par La Blanche de Gallimard. Vous vous moquez un peu de votre statut, mais là, c'est parce qu'il y a votre frère et qu'il y a votre belle-sœur.
Oui, mon frère me fait jouer le rôle de l'intellectuel dont il peut se gausser, en effet. C'est vrai aussi que si je parle des objets et des objets maudits, ça devait venir à la fin. Je devais en venir au livre, dont je pensais que il allait me permettre à un moment donné, justement, que ça allait être l'objet qui allait me sauver de la haine des autres objets. Donc j'ai pas aperçu tout de suite que c'était aussi un objet de séparation d'avec ma famille, de gens assez simples finalement.
Suite à la publication de Pays perdu.
Non, simplement parce que le statut d'intellectuel est un statut particulier quand on vient d'une famille de vendeurs à prise unique et de chauffeurs de maître, ça vous met tout de suite dans une position un peu spéciale, à la fois honorée, mais soit objet de blague. Soit quelqu'un qui est un peu dans un autre monde, quoi. Vous savez, l'intello, quoi, il est dans son truc. Et puis de séparation d'avec les racines, avec le pays, puisque ce livre m'en a séparé d'une certaine façon.
D'une certaine façon seulement, parce que vous y revenez à chaque fois, Pierre Jourde.
Oui, justement, je reviens là-bas parce que c'est chez moi, je vois pourquoi je n'irai pas. Et puis cette rudesse et cette violence sont inhérents à la beauté tragique du pays, donc j'ai pas été surpris et ça n'a pas changé grand-chose en réalité.
Vous lancez quelques piques aussi à quelques écrivains, Éric Chevillard, Philippe Dian.
Alors, attention.
C'est pas méchant, c'est un peu grinçant.
Oui. D'abord, je suis un grand admirateur d'Éric Chevillard. Donc, je fais une blague sur le lecteur d'Éric Chevillard, que je représente comme une espèce de minable obsessionnel.
Bossu,
etc. Mais en fait, c'est un passage qu'il a lui-même... En fait, je me démarque d'un passage qu'il a lui-même employé pour décrire son propre... Je veux dire, c'est une private joke envers un ami.
Très bien.
C'est un peu...
Ce qui n'est pas le cas de Philippe Thur.
Non. Alors, il y a effectivement, dans mes repoussoirs, il y a qui sont présents dans le livre, en tout cas, il y a Christine Angot, Philippe Jean et Yannick Enel, qui pour moi sont des caricatures d'écrivains.
Pourquoi ? La pauvre Christine Angot, elle aura eu et Michel Houellebecq et Pierre Jourde cette année.
Oui, c'est vrai, mais enfin bon, elle s'en remettra, elle a le cuir dur. Non, mais en fait, tout simplement que mes livres ont une double dimension, c'est-à-dire qu'ils sont toujours une tentative de se colter avec une réalité qui nous échappe, et la brutalité est un aspect de cette tentative de se colter à la réalité. Et c'est aussi des livres qui, puisqu'il s'agit de se colter avec la réalité, on ne peut pas nier le fait que notre réalité est constituée de langage, pour l'essentiel. Et que dans ce langage, il y a la littérature. Et que la littérature nous construit, nous fait, nous informe, nous forme. Et que, je crois, que défendre de la fausse littérature, en disant que c'est de la grande, de la bonne, et ben précisément est une espèce de malfaisance réelle. C'est pas gratuit. C'est pas juste des mots. Je crois que, par exemple, enfin, c'est pas le sujet, hein, c'était juste en passant comme ça. Mais Yannick Enel est un très bon exemple parce que c'est quelqu'un qui est honoré comme un écrivain de valeur. Alors que ça me paraît très difficile de lire trois de ses pages sans les trouver grotesques. Mais bon, voilà, c'est vrai, c'est à argumenter plus finement que dans ce livre où le figurant passe rapidement.
Et Michel Houellebecq?
Je ne pense pas l'évoquer, mais...
Mais vous le lisez, Pierre Jour?
Je le lis comme tout le monde, oui.
Ouais.
Oui, avec, de manière très surprenante, des moments d'admiration pour certains livres, et des moments d'accablement pour d'autres. J'ai l'impression qu'il... En tout cas, dans ma lecture, qu'il fait vraiment... qui va du... Enfin, du très bon, je ne sais pas. En tout cas, du très ambitieux, du fort, du puissant... à des auto-caricatures. Mais bon, c'est pas l'objet du livre non plus.
Le voyage du canapé-lit. Est-ce que vous avez des objets, des meubles que vous voulez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, Pierre Jourde, ou vous vous contenterez des livres que vous avez écrits?
Non, les livres, c'est pas mal, parce que c'est aussi un objet spirituel. Non, parce que la transmission, c'est quand même important quand on a...
Même des objets?
Ouais. Oui, enfin quelques œuvres d'art notamment, quelque chose assez belle. Oui, mais enfin en même temps, je crois qu'on peut s'en passer des objets, c'est vrai.
Merci beaucoup d'être passé. On peut réécouter cette interview de Pierre Jourde en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr, entre autres. D'ailleurs, au passage, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast du Réveil Culturel. À la réalisation, Vincent Abouchard, à la coordination, Corinne Amard, et à la prise de son ce matin, Claude Nior. Demain, on parlera des coléoptères à l'occasion d'une belle exposition à Lyon. Merci Pierre Jourde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Voyage du Canapé-Lit. C'est édité par Gallimard.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente « Certaines n'avaient jamais vu la mer » de Julie Otsuka et Richard Brunel. Au début du XXe siècle, des milliers de Japonaises, mariées à des inconnus sur la foi d'une photo, embarquent pour la Californie. Mais lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, des familles entières sont déportées. Richard Brunel porte à la scène cette poignante épopée de Julie Otsuka. Sur le plateau, 1000 destinées se rêvent et s'y jouent. Porté par une troupe de 12 interprètes, dont Nathalie Dessay. Certaines n'avaient jamais vu la mer, du 30 janvier au 2 février à la Comédie de Valence. Un partenariat France Culture. Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Cette semaine, Culture Monde vous propose une série consacrée à la police et aux relations qu'elle entretient avec ses citoyens. Les récentes violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes nous invitent à nous pencher sur la manière dont la police doit, peut maintenir l'ordre sans devenir elle-même un agent de cette violence. Que nous apprennent les expériences étrangères en la matière? Comment les autres pays pensent-ils leur système policier? Depuis la police française jusqu'aux policiers américains, parfois taxés de racisme, en passant par le Mexique où la corruption gangrène les forces de l'ordre. Mais que fait la police? Rendez-vous cette semaine dans Culture Monde.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Tout de suite, le journal de 6h30 avec Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. Au Venezuela, deux nouvelles manifestations auront lieu cette semaine à l'appel du président du Parlement, Juan Guaido, qui se dit aussi président du pays par intérim. Son but est de convaincre l'armée de le suivre face à Nicolas Maduro, qui pour l'instant ne bouge pas alors que la crise sociale continue dans le pays. Reportage à la frontière avec la Colombie dans un instant. Analyse également dans ce journal depuis le Panama des tentatives de médiation lancées par le Vatican qui pour l'instant n'ont rien donné, nous dira Mathilde Imberti. En France, retour sur un week-end de mobilisation. Hier, les foulards rouges sont descendus dans la rue à Paris au lendemain de l'acte 11 des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui poursuivent la structuration politique de leur mouvement. Dans la soirée à Orléans hier, Jacqueline Mourot, qui avait lancé un des premiers appels à la mobilisation par le biais d'une vidéo, a lancé « Les émergents », son parti politique. Un incendie a ravagé cette nuit les locaux de France Bleu Isère à Grenoble, en plein centre-ville. Il n'y a pas eu de blessés, les locaux étaient vides à 2h30 quand les incendies se sont déclarés. Les dégâts sont très importants. La station, qui fait partie du groupe Radio France, ne pourra pas assurer ses programmes habituels. Écoutez Léopold Strajnik, c'est le rédacteur en chef de France Bleu Isère.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu deux départs de feu simultanés. Donc, il s'agit, vous l'aurez compris, d'un incendie criminel. Il n'y a pas de doute là-dessus, la police nous l'a précisé. Tout le rez-de-chaussée du bâtiment est en partie détruit, mais c'est surtout des fumées et des dégâts qui ont été causés dans tout le système électrique. Ça va prendre beaucoup de temps, si vous voulez, pour avoir un diagnostic précis des dégâts. Quoi.
Est-ce que vous aviez eu des menaces ces derniers temps, contre la locale, non, contre les journalistes?
Absolument pas, absolument pas. Et dans le climat actuel, je comprends que vous me posiez la question. On n'a pas eu de menaces ciblées. Les relations qu'on avait sur le terrain lors des manifestations dans le climat qu'on connaît étaient relativement saines. Il est beaucoup trop tôt de formuler des hypothèses.
Au Venezuela, la réponse de Nicolas Maduro à l'Union européenne, elle est arrivée hier sans surprise. Pas question d'organiser de nouvelles élections pour mettre fin à la crise politique, comme le lui demandent de nombreuses chancelleries à travers le monde. Le président élu fait valoir au contraire le soutien de l'armée dont il jouit pour l'instant, alors que son opposant, le président du Parlement, Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, appelle à la manifestation une nouvelle fois. Deux manifestations aujourd'hui, mercredi et samedi justement, pour tenter de faire basculer l'armée. Il est porteur pour cela d'une loi d'amnistie. En attendant, la crise économique et sociale continue au Venezuela. Reportage à la frontière avec la Colombie de Nathanaël Charbonnier.
Il est des images qui marquent les cœurs plus que d'autres. Celle de l'afflux de Vénézuéliens malades qui traversent la frontière à Cúcuta en font partie, comme Ismaël qui arrive en boitant avec ses béquilles. Alors Ismaël explique qu'il vient ici à Cúcuta pour trouver des médicaments car au Venezuela il n'y en a pas. En plus, chez lui c'est très difficile de gagner sa vie. Alors il vient ici pour pouvoir manger et se soigner. Sergio Alacorn est le responsable de la sécurité civile qui accueille les personnes en difficulté. Il décrit une situation qui empire.
Ici, il y a un centre médical. Les Vénézuéliens qui arrivent ont beaucoup de problèmes de santé. On reçoit notamment beaucoup de femmes enceintes.
Et si Sergio Alacorn parle des femmes enceintes, c'est parce qu'au Venezuela, elles sont peu suivies. Alors il faut marcher et traverser la frontière pour se faire ausculter. Comme cette jeune Nancy, elle a 19 ans. Nancy explique qu'au Venezuela, il n'y a pas de prise en charge des femmes enceintes. Mais ce qui l'inquiète aussi, c'est d'être bloquée à la frontière, de ne pas pouvoir passer et de devoir accoucher chez elle. car Nancy n'oublie pas que l'année dernière, elle a fait une fausse couche à 5 mois de grossesse parce que j'étais sous-alimentée, dit-elle.
Reportage de Nathanaël Charbonnier. Et après les pays européens, Israël, les États-Unis et le Canada, l'Australie à son tour a reconnu cette nuit Juan Guaido comme président par intérim jusqu'à ce que des élections aient lieu. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la ministre australienne des Affaires étrangères. Autre diplomatie impliquée dans ce bras de fer, celle du Vatican. Depuis le Panama, où il assistait jusqu'à hier aux Journées mondiales de la jeunesse, le pape François n'a pourtant pu faire que le constat de l'échec de ses tentatives de conciliation ces derniers mois. Mathilde Amerti.
Les efforts de médiation du Saint-Siège ont échoué jusqu'ici au Venezuela. La première tentative en 2016 est restée vaine, nos solutions ont été rejetées et l'opposition est divisée, avait commenté publiquement le pape. Depuis, la crise s'est accélérée, le président Maduro a entamé un nouveau mandat et l'église locale réclame fermement la fin de la répression. Ce qui n'empêche pas le Saint-Siège de laisser la porte ouverte. Un représentant de la diplomatie vaticane était d'ailleurs présent à la cérémonie d'installation de Maduro ce mois-ci, boudé par la plupart des autres États. Le Saint-Siège ne rompt jamais les relations diplomatique, quelle que soit la situation, et ses ambassadeurs restent en poste même quand tous les autres ont été évacués. Les diplomates du Saint-Siège doivent maintenir à tout prix le dialogue, ce qui explique que le pape se soit exprimé sur la crise vénézuélienne mais sans prendre position sur les personnes.
Que l'on trouve une solution juste et pacifique pour surmonter la crise, en respectant les droits de l'homme et en visant exclusivement le bien de tous les habitants du pays.
Trouver les moyens d'agir au Venezuela est prioritaire pour le Saint-Siège et compromet le difficile travail entamé au Nicaragua, où le président Daniel Ortega, fidèle allié de Maduro, a mis fin au dialogue impulsé par l'Église catholique et accuse les évêques de conspiration.
Mathilde Imberti. Emmanuel Macron est en Égypte depuis hier, visite officielle tournée en priorité vers le partenariat stratégique entre les deux pays. Il sera également question d'économie et de droits de l'homme au programme aujourd'hui de la rencontre entre Abdel Fattah al-Sissi et le président français, une discussion ouverte sur le sujet, c'est ce que promet l'Élysée, dans l'intérêt, a expliqué hier soir Emmanuel Macron au Caire, du régime et de la stabilité du pays. Depuis l'Égypte, le président français a également assuré qu'il tirerait des conséquences profondes de la colère exprimée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, des conséquences qui ne seront pas simplement des mesures techniques, a expliqué le président français. Après un acte 11 samedi par de nouvelles violences et une légère baisse de la mobilisation, les Gilets jaunes se structurent politiquement. Une liste est déjà prévue pour les élections européennes. Elle sera menée par Ingrid Levavasseur hier. C'est un parti politique qui a vu le jour, les Émergents, parti fondé à Orléans par Jacqueline Moureau. Reportage de Cyril Ardo.
À l'occasion de cette présentation, ni elle ni aucun des membres ne portait le gilet jaune.
C'est un parti qui ne s'adresse pas qu'aux Gilets jaunes. C'est un parti qui s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aussi, par exemple, à tous les commerçants qui m'ont écrit, qui n'en peuvent plus. Et aussi, et je le regrette, à toutes ces personnes qui ont perdu leur travail à cause du mouvement.
Jacqueline Moureau affirme sa volonté de rassembler, d'être ni de droite ni de gauche, et a détaillé pendant une dizaine de minutes ses principales propositions. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité et l'augmenter sur les produits de luxe. Elle réclame plus de personnel dans les EHPAD, veut sanctuariser les retraites et se dit également écologiste. Enfin, elle veut dialoguer avec Emmanuel Macron.
Nous ne souhaitons pas sa démission parce que je ne vois pas par qui on le remplacerait. Aujourd'hui, il n'y a personne pour le remplacer. Donc il vaut mieux manager avec le président que tout foutre en l'air. Ça, c'est notre point de vue. Maintenant, il faut impérativement que le président, à la suite du grand débat, prenne des décisions concrètes.
Mais elle le sait, elle est une figure très controversée au sein même du mouvement des Gilets jaunes.
Ça veut dire qu'au moins, j'apporte quelque chose, peut-être que je dérange.
Ça vous fait pas peur ?
Pas du tout.
Après les annonces, il va falloir se mettre au travail. Les Émergents ont notamment prévu d'organiser des réunions un peu partout en France dans le cadre du grand débat national.
Reportage de Cyril Ardo de France Bleu Orléans. On attend dans la matinée les chiffres de la sécurité routière pour 2018 sur fond de remise en cause de la limitation à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les axes secondaires. C'est Édouard Philippe lui-même qui annoncera ces chiffres qui s'annoncent meilleurs. Hier, depuis l'Égypte, Emmanuel Macron a semblé de nouveau prendre la défense de la mesure, parlant d'un engagement courageux et d'une mesure utile et efficace. 80 000 personnes ont défilé hier en France pour le climat. De nombreux cortèges ont également été recensés en Belgique pour protester contre l'inaction des États face au réchauffement climatique. Nouveau cri de ralliement aux arbres citoyens. L'organisation État islamique a revendiqué cette nuit le double attentat perpétré dans la matinée d'hier sur l'île de Jolo dans les Philippines. Cette attaque a touché la cathédrale de Jolo, faisant au moins 18 morts d'après un dernier bilan. Un avocat chinois spécialisé dans la défense des droits de l'homme a été condamné ce matin à 4 ans et demi d'emprisonnement pour subversion par un tribunal du nord du pays. Wang Quanzhong avait notamment défendu des militants politiques, des membres de la secte interdite Falun Gong et des paysans dépossédés de leurs terres. La météo en France attend toujours perturbée aujourd'hui sur une grande partie du pays. Ce sera pluvieux et nuageux sur les reliefs, le Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Température minimale ce matin de moins 1 à 4 degrés, jusqu'à 9 degrés attendus cet après-midi. Au meilleur de la journée, le long des côtes, notamment le long des côtes de la Méditerranée. Maximale comprise entre 5 et 11 degrés aujourd'hui. À 6h40 sur France Culture, on retrouve maintenant Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Benoît Bouscarel.
Pour le journal des Inés, vous nous parlez ce matin d'Emmanuel Lévinas, le philosophe qui a fait du visage d'autrui le paradigme de la relation éthique, voilà qui continue à éclairer notre actualité, Jacques.
Eh oui, sa pensée, Benoît, semble résonner aujourd'hui avec les grandes questions de notre temps, inégalité, précarité ou accueil des migrants, estime Sven Ortoli, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui consacre un hors-série à Emmanuel Lévinas. Judith Butler y témoigne de ce que lui doit sa propre réflexion sur la vie précaire. Jean-Luc Marion insiste sur le renversement qu'il opère dans l'histoire de la philosophie, plutôt fondée sur la métaphysique et l'ontologie, en plaçant l'éthique au cœur de son œuvre, parce que l'éthique s'attache à décrire l'existant plus que l'existence. L'ouverture, non pas à l'être en général, mais à un étant très particulier, autrui, l'autre radical qui m'envisage, écrit Jean-Luc Marion, et qui m'envisage et qui ne peut pas être un objet pour moi car il relève de l'obligation et du respect et ne se montre qu'en eux. L'auteur, notamment de Prolégomène à la charité, suggère un prolongement possible de l'éthique de Lévinas dans une pensée de l'amour. Le visage ne se révèle comme tel et ne me révèle à moi-même qu'en passant de l'éthique à l'érotique. Frédéric Worms évoque également la dimension de l'amour, notamment maternelle, que Lévinas explore dans son grand livre « Autrement qu'être ou au-delà de l'essence ». L'amour maternel est pour lui le modèle de l'éthique. Pour être capable d'accueillir la parole d'un autre visage, il faut qu'on se soit adressé à nous comme à un visage. Avant d'être un sujet qui doit respecter autrui, nous avons été un autrui pour d'autres sujets. Le philosophe célèbre la contribution essentielle de Lévinas à une politique de l'hospitalité, faisant de son principe éthique de l'accueil inconditionnel d'autrui une exigence critique pour notre temps de repli face au mouvement migratoire, un idéal inconfortable comme tous les choix cruciaux en matière d'éthique. Dans une situation de catastrophe, par exemple, lorsqu'un tri s'impose dans l'urgence pour sauver des victimes, ce doit être en pleine conscience que ce choix est tragique. Celui qui n'est pas déchiré, écrit Frédéric Worms, celui qui n'est pas déchiré par le choix qu'il doit faire a déjà renoncé. Philippe Corcuff souligne quant à lui la fécondité de cette philosophie pour décrire les relations de soins ou d'assistance en termes de face à face, mais aussi la ressource qu'elle représente pour penser l'émancipation et une politique des identités ouvertes. Les éditions Payot et Rivage viennent de publier une conférence inédite d'Emmanuel Lévinas sur l'Europe, où il est beaucoup question d'identité. Son titre « De l'unicité », celle du genre humain dans son ensemble, irréductible à telle ou telle identité, dans un chapitre intitulé « Sans identité » de son livre « Humanisme de l'autre homme », il avait montré que l'intériorité revendiquée du moi identique à lui-même se dissout dans l'humanisme des belles âmes, car tout l'humain est dehors, écrivait-il. Dans cette conférence, il estime que s'il doit y avoir une identité européenne, c'est compte tenu des catastrophes du XXe siècle, l'angoisse d'une responsabilité qui incombe aux individus survivants à la mort violente des victimes. Reste que c'est l'unicité de l'humain qui mobilise non pas le neutre de quelque curiosité désaffectée, mais le pour l'autre de la responsabilité. À cet égard, l'amour est désigné comme le modèle de la relation éthique, celle qui va à l'autre inattendue. inassimilable, incomparable, à l'autre irréductible, à l'autre unique. C'est l'unicité de l'aimer qui signifie, qui ajoute du sens dans l'amour. Au plan de la justice et du droit, Lévinas invoque les voix qui rappellent au jugement des juges et des hommes d'État le visage humain dissimulé sous les identités de citoyens. Ce serait peut-être, écrit-il, ce serait peut-être cela les voix prophétiques. Spécialiste reconnu d'Emmanuel Lévinas, Catherine Chalier publie chez Bayard un beau livre intitulé « Pureté, impureté » où elle met à l'épreuve ces notions qui animent encore les débats sur l'identité ou inspirent le fanatisme des fondamentalistes. Depuis les sources bibliques et anthropologiques qui illustrent dans les rites la recherche anxieuse de la pureté comme une façon de faire prévaloir les forces de la vie sur celles de la mort, jusqu'au discours nationaliste qui évoque, comme chez Barrès, la volonté, je cite, de raciner les individus dans la terre et dans les morts. L'impératif révèle son ambiguïté. La catharsis, qui signifie en grec la purification des passions, est à l'origine d'innombrables et terrifiants désastres. Dans les pages Idées de Libération, Jean-Luc Nancy s'en prend aux enragés de la souveraineté française qui diabolisent le traité d'Aix-la-Chapelle. Le philosophe rappelle que nos entreprises, l'avenir de nos jeunes, sont d'ores et déjà insérées dans des réseaux qui rayonnent largement hors des champs d'exercice de la souveraineté française, sans pour autant se soumettre à l'international des puissances techno-économique, il s'agit justement de reprendre sur elle non pas une souveraineté nationale, mais une souveraineté humaine, voire plus qu'humaine, vivante et spirituelle. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous revenez sur la question kurde.
Eh oui, c'est ça, avec cette zone de sécurité spéciale au nord de la Syrie. L'idée avait été évoquée par Donald Trump, elle l'est aussi depuis quelques jours par la Turquie et la Russie. Les Kurdes de Syrie qui font partie des FDS la rejettent et cherchent à traiter avec Damas pour sauver ce qu'ils peuvent de leurs acquis territoriaux. Il y a 5 ans, ils créent leur propre entité. Alors, leur moment est-il passé? On voit ça avec vous, Boris Jam. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes historien, ancien directeur, tout juste ancien de l'IFPO à Erbil, co-auteur avec Jordi Tegel, des Kurdes en sans question, un peuple sans État. Vous posez la question. Justement, il y a 5 ans et une semaine, les Kurdes de Syrie créent dans le nord une unité de 3 cantons intégrés et le Kurdistan irakien, lui, avait reçu le président Erdogan quelques mois auparavant. Est-ce que c'était ça l'apogée du moment kurde, leur moment politique dont parlaient les analystes?
Alors sur les 10 dernières années, effectivement, c'est l'apogée, parce que quand on compare ce moment justement des souverainetés kurdes, c'est-à-dire une qui commence à peu près en 2003 avec l'avènement la chute de Saddam Hussein qui entérine l'avènement d'un Kurdistan en Irak, l'année 2012 qui voit le retrait des forces du régime de Damas, des zones kurdes de Syrie, effectivement, on est à l'apogée des moments de souveraineté kurde.
Alors je dis ça parce que justement l'actualité du week-end est tout autre. Là, on avait 15 ans de velléité politique, mais là ce qu'on voit c'est de plus en plus de frictions entre l'armée turque et les forces kurdes du PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan. Il y a eu des accrochages en Syrie, au Kurdistan irakien, là c'est une base militaire turque qui a été envahie, saccagée par des manifestants. La Turquie accuse le PKK d'être à l'origine des événements. Est-ce qu'une nouvelle confrontation vous semble inévitable désormais?
Alors la confrontation n'a jamais vraiment cessé, c'est-à-dire que les moments où la Turquie a fait mine de vouloir négocier avec le PKK sont à la fois extrêmement rares et assez peu sérieux. Après, ce qui se passe aujourd'hui au Kurdistan d'Irak, c'est-à-dire au niveau de la base de Chaladze, c'est pas contrairement à ce qui est dit par les Turcs, c'est pas du tout un cas lié au PKK. C'est plutôt la protestation de population kurde d'Irak contre justement l'exportation du conflit PKK-Turquie au Kurdistan d'Irak.
Oui, parce que la Turquie bombarde régulièrement les bases PKK en Irak du Nord, au Kurdistan.
Voilà, c'est ça. Et de même qu'il y a aussi des confrontations entre les Pasdarans, les gardiens de la révolution, et certains mouvements kurdes d'Iran sur le territoire du Kurdistan d'Irak. Donc il y a une exportation permanente des conflictualités des deux côtés de ces frontières.
Alors justement, avant qu'on voit un peu dans le détail, comment est-ce que globalement, historiquement, vous situez aujourd'hui les Kurdes par rapport à ce moment politique kurde? Est-ce qu'ils vont pas être pris au piège de cette relation très sécuritaire entre le président Erdogan et le PKK?
Alors, si on fait une comparaison entre ce moment kurde du début du XXIe siècle et le début du XXe siècle, par exemple, on est vraiment dans une situation beaucoup plus positive pour les Kurdes, où leurs différences, leur niveau d'organisation politique, leur niveau même d'étatisation est tout à fait supérieur. Effectivement, il y a eu ce moment d'euphorie dans les années 2010 qui est en train de retomber, mais on ne reviendra jamais, disons, à des niveaux de dissimulation et d'invisibilité de la question kurde comme les années 40, par exemple, l'ont connu.
Alors justement, qu'on en dise un mot aussi, il y a eu ce moment dont une autre apogée, ça a été en 2016, la proclamation du Rojava dans le nord syrien encore. Vous en avez parlé dans un article récent, mais il y a une réalité de l'administration aujourd'hui PKK dans ce nord syrien, de l'administration et de l'enseignement.
Oui, il y a une réalité. Enfin, en tout cas, le fait accompli militaire et politique s'accompagne d'un fait accompli administratif. C'est-à-dire administratif, organisationnel. On a tout un tas d'institutions qui ont été mises en place et qui se veulent kurdes, enfin en tout cas affiliés au PKK. Et alors c'est à double tranchant, puisqu'il s'agit d'un fait accompli, donc il n'est reconnu que par les personnes qui le mettent en place. Et donc ni l'État central syrien, ni la communauté internationale ne reconnaît vraiment la construction politique qui est mise en place dans le Rojava.
Oui.
Donc ça pose énormément de problèmes.
Et c'était symptomatique, je crois que vous le disiez hier sur Orient Hebdo, sur RFI, au niveau des diplômes qui, eux, ne sont pas reconnus non plus. Alors justement, ce Rojava, est-ce qu'il tient, est-ce qu'il peut tenir, notamment par rapport aux demandes de la Turquie, qui veut aujourd'hui, c'est intéressant aussi, la réactivation d'un traité historique avec la Syrie qui enjoignait la Syrie de chasser, en gros, le PKK de sa zone nord sous peine d'intervention turque.
Je crois que c'est assez amusant de voir la Turquie et même l'État central syrien en appeler au respect de traités bilatéraux entre la Syrie et la Turquie, alors que le niveau de chaos, de désordre, de non-respect des conventions internationales est patent. Donc effectivement, c'est dans une sorte de discussion à trois où la Russie, l'État central syrien et la Turquie veulent mettre en avant une sorte de normalisation de la situation. Ça c'est mais ce qui est au centre évidemment pour la Turquie, c'est évidemment de ne toujours pas régler son problème kurde et de toujours considérer qu'il s'agit uniquement d'un problème sécuritaire et un problème de terrorisme.
Et en tout cas, vous avez dit discussion à trois, effectivement, parce que Vladimir Poutine lui-même, je crois, a été le premier à évoquer ce traité d'Adana de 1998. Alors face à cela, il y a eu des déclarations du commandant en chef des FDS, Masloum Kobani, ce week-end, qui demandait un mois pour réduire Daesh. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Est-ce qu'il cherche un répit? Est-ce qu'il cherche un moyen de pérenniser cette entité politique, toujours en se posant comme ils sont, en défenseur effectivement face à Daesh?
Oui, je crois que ce qui est au centre pour le PKK, c'est la nécessité de gagner du temps, effectivement, et surtout de déployer l'ensemble de ses atouts dans la négociation et dans la négociation et dans l'internationalisation de son existence. C'est vraiment ce qui est au centre. Donc là, effectivement, ce qui a permis l'internationalisation de la question kurde de Turquie, c'est le combat contre Daesh. Et donc il faut symboliquement toujours ramener au rôle central des Kurdes dans le combat contre Daesh, et donc pour le rappeler à des opinions publiques occidentales. Mais par contre, on n'hésite pas à négocier avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la Syrie et la Russie.
C'est ça. Même si, Et de fait, hein, les Kurdes, toujours auprès des FDS, qui combattent aujourd'hui l'EI dans son dernier réduit à Barhouz, là dans le sud syrien. Alors, dernière chose, il y a la question d'un statut spécial qui est demandé par ce même Masloum Kobani. Il a dit, c'est notre ligne rouge, nous ne ferons pas de concessions. Statut spécial pour les FDS, ça permettrait quoi pour ces Kurdes du Nord d'être intégrés dans l'armée syrienne, d'avoir une zone à gérer?
Oui, alors... Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez indiqué au début de votre entretien que les FDS rejetaient en bloc la question de la zone de sécurité. Mais au départ, ils se sont dit plutôt positifs, plutôt d'accord avec cette zone de sécurité, feignant de croire que la Turquie n'y jouerait qu'un rôle mineur, etc. Donc, la rhétorique par rapport à des négociations, elle évolue en permanence. Donc, moi, je ne connais pas du tout les détails de ce qui pourrait se décider. Mais ce qui est certain, c'est que ni l'État central syrien, ni la Turquie ne souhaitent qu'on ait une force militaire affiliés au PKK qui se maintiennent dans cette région. C'est pas que c'est impossible, mais ce serait très très, très difficile, et en tout cas ça ne signerait pas l'imposition d'une souveraineté turque ni le rétablissement d'une souveraineté syrienne dans la région.
Eh bien, merci. À suivre au jour le jour pour voir si les seuls amis des Kurdes sont les montagnes, comme le disait le proverbe. Merci Boris Jam, on renverra votre livre Les Kurdes en 100 questions, un peuple sans État.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Lundi 28 janvier à 20h, France Culture et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent Les scènes imaginaires, carte blanche au metteur en scène Christophe Honoré. Texte de Marcel Proust, Salinger, François Truffaut, Nathalie Sarraute, lu par une troupe d'acteurs réunis par Christophe Honoré, avec la participation de Geneviève Brisac et Dominique Bruguière. Entretien de Christophe Honoré par Arnaud Laporte, réalisation Christophe Hoquet. Réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins et de retrouver Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Alors il paraît, histoire aussi, que la blessure à l'œil du gilet jaune Jérôme Rodriguez a une longue histoire.
Une longue histoire, ou plus exactement une longue symbolique. Cette blessure a été infligée samedi, place de la Bastille à Paris, conséquence d'une grenade de désencerclement ou d'un tir de flashball, les versions divergent. Et dès que cette nouvelle s'est diffusée, on a pu lire des appels à la vengeance sur les réseaux sociaux, des mentions du type l'État, ils veulent la guerre. Et ainsi se réactive la loi du talion, comme si on retrouvait 4 millénaires après sa naissance le retour du refoulé, la genèse de la justice dans le code d'Hammurabi, ce code sumérien qui a servi de matrice à la Bible. Une blessure à l'œil renvoie immédiatement à la loi du talion, laquelle est le premier embryon de justice. Une loi présente 3 fois dans l'Ancien Testament, par exemple dans le Deutéronome. « Ton œil sera sans pitié, vie pour vie », lit-on dans l'Ancien Testament, « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». Il y a 2 manières d'interpréter cette règle, Xavier, ou bien on considère qu'il s'agit de la première tentative de restreindre la bestialité de l'homme par la loi, œil pour œil, mais pas plus, ou bien l'on considère qu'il s'agit d'une loi inhumaine qui croit possible d'infliger la violence pour réparer la violence. Et c'est ainsi que l'interprétation de ce verset biblique a été laissée à l'appréciation d'un tribunal rabbinique dans l'Antiquité, partant du postulat qu'un œil n'avait pas nécessairement la même valeur pour un être et pour un autre, forgeant en somme la notion de préjudice qui est à l'origine du droit moderne. Et même s'il n'est plus question de loi du talion, œil pour œil est devenu le symbole de la non-justice, autrement dit de la vengeance perpétuelle. C'est en cela que la justice moderne innove, comme l'a souligné le philosophe René Girard. S'il n'est plus question d'œil pour œil, c'est parce que la justice s'oppose à la vengeance, et la vengeance, ce n'est pas seulement la réponse à une agression, c'est aussi le cycle infini de la violence, de la réponse à la violence. 3700 ans après le code d'Hammurabi, on en est toujours là.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Et pour évoquer justement la violence, les réponses à la violence et la loi, le respect de la loi, une grande conscience. Henri Leclerc, avocat à la Cour, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, sera notre invité aux environs de 7h40. On évoquera avec lui la situation dans les manifestations, la manière dont la police réplique et la manière dont le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, envisage de juguler ce qu'il appelle des violences inacceptables. On verra avec maître Henri Leclerc comment se situe la loi, ce qu'elle peut faire. En attendant, il est 7h sur France Culture.